Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Michel Bar-Zohar. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été député au Parlement israélien, vous êtes écrivain, historien, vous avez été diplomate, vous êtes le biographe officiel de David Ben-Gourion et de Shimon Peres. Et vous êtes, c'est ce qu'on dit, en tout cas l'un des meilleurs spécialistes israéliens de l'espionnage. D'ailleurs, on vous doit ce livre, les Mossad, les grandes opérations, que vous avez coécrit avec Nissim Michal, qui a été un best-seller mondial. Et là, vous publiez un livre époustouflant, passionnant, vraiment incroyable. Ça s'appelle « Les Amazones du Mossad ». C'est paru aux éditions Saint-Simon, au cœur des services secrets israéliens. Alors, on est à la fois dans un polar, dans une série, dans une série télé, d'ailleurs il y a eu une série adaptée d'une de ces histoires, et vous racontez l'histoire de ces femmes qui se sont engagées auprès du Mossad. Alors racontez-nous un petit peu qui sont ces espionnes, c'est ce qu'on découvre dans le livre, mais comment vous avez eu l'idée de faire ce livre et est-ce que ça a été compliqué ?
L'idée m'est venue d'une façon tout à fait...
Naturelle ?
Non, j'avais une amie qui s'appelait Marcel Nignot, qui avait passé 14 ans dans la prison au Caire pour espionnage. Et après, elle a été libérée, elle est venue en Israël, on était de bons amis. Et un jour, elle me dit, j'étais à un enterrement et j'ai vu quelques-unes des filles. Je dis, mais quelles filles ? Elles disent, les femmes qui ont travaillé au Mossad avec moi et tout. Je dis, mais quelles femmes ? Alors il m'a dit, il y a quelques-unes, je dis, tu peux me donner des noms? Il dit, je dois demander à mon officier de sécurité. Je lui demande. Elle me téléphone le loin, elle me donne deux noms et deux numéros de téléphone. Je rencontre ces deux femmes, elle me l'envoie chez des autres, et comme ça je commençais à trouver,
à assembler,
et finalement de voir le grand tableau. Ouais. Et le grand tableau était que toutes ces histoires sur le Mossad, avec ces hommes virils, ces James Bond, qui savent tout, qui sont très courageux, très forts, très inventifs, très créatifs. C'est faux. C'est pas seulement des hommes, mais il y a aussi des femmes au même niveau, et parfois même plus au-dessus, et qui font exactement la même chose que les hommes du Mossad. Alors comment ça s'est fait? Je commençais à chercher. Écoutez, au début, elles faisaient du café, toutes ces femmes-là. Les femmes du Mossad. Après, elles tapaient des rapports de leurs supérieurs. Et puis, le Mossad a commencé à découvrir, premièrement, qu'une femme passe au-dessous du radar d'une façon beaucoup plus facile.
Ouais.
Elle est moins suspecte quand elle passe une frontière.
Ouais.
Quand elle se joint à un homme, le couple est moins suspecte qu'un homme seul.
Ouais.
Et après, ils ont vu que ces femmes-là ont une qualité incroyable que nous, les hommes, pour nous, c'est un malheur. C'est l'ego. Nous avons un ego qui est gonflé, qui nous empêche de penser comme il faut. Les femmes sont beaucoup plus centrées, plus sérieuses dans leur attitude. Elles ne sont pas moins courageuses que les hommes, mais elles ont beaucoup plus de sang-froid. Elles ont une intuition.
Ouais.
Et puis, elles ont une capacité supérieure d'improviser une solution à une situation...
Plus pragmatique, qui a imprévu.
Imprévu.
Et un courage dans chacune de ces histoires...
Énormément de courage, oui.
Qui est saisissant. Certaines, on vous évoquait cette femme, mais qui sont restées en prison, qui ont été torturées, et qui n'ont pas cédé.
Qui n'ont pas cédé.
Et ce sont des femmes qui font ça. C'est aussi une chose qui peut surprendre quand on lit le livre, pour l'amour du pays, pour l'amour d'Israël.
Ah oui. C'est
un patriotisme. Cette femme, alors j'ai pas tous les noms en tête, mais cette femme qui est au Liban, qui entend une conversation et qui va devenir
Shula Cohen,
Shula Cohen, qui est l'une des grandes, femmes du Mossad. Les histoires sont incroyables.
Cette femme dont vous parlez, Shula Cohen, c'est elle qui est devenue en fait agent du Mossad, parce que c'est elle qui a forcé le Mossad de la recruter.
Oui,
elle m'a dit
ça.
C'est moi qui ai recruté le Mossad, c'est pas le Mossad qui m'a...
C'est elle qui entend une conversation qui va rapporter
cela, et de cela ça commence. Maintenant, cette femme-là a eu pendant sa vie sept enfants.
Ouais.
Et aucun des enfants n'a eu aucune idée que sa mère était, que leur mère était la plus grande espionne à Beyrouth.
Ouais, ça c'est...
Et après, elle a été jugée, condamnée à mort par pendaison. Nous avons quand même réussi à l'amener en Israël, à la libérer. Elle est arrivée à l'âge de 50 ans. Elle a trouvé toute sa famille. Elle est morte à l'âge de 100 ans, l'année dernière.
Ce sont des histoires, mais ce sont des chapitres à chaque fois qui racontent ces histoires de femmes. La première histoire, elle est contemporaine. Opération Trio, c'était en 2007. Voilà. Nina, Marilyn et Kira. Encore une fois, ça commence comme ça se passe dans un couloir d'hôtel. Voilà. Alors je me suis posé la question, il y a tout un stratagème pour arriver à piquer la clé du chef des services secrets syriens, en fait celui qui s'occupe
du
nucléaire. Voilà. Alors je me suis dit, mais quand il y a tous les moyens, on ne va pas dévoiler, parce qu'il faut lire ce livre, quand on voit tous les moyens qui sont déployés par le Mossad pour aller espionner cet homme, on se dit, mais pourquoi une fausse clé n'aurait pas suffi plutôt que le stratagème qui est où elle pleure dans le couloir avec sa valise en disant « je n'arrive pas à l'ouvrir ». L'homme s'approche et elle lui dit « peut-être qu'avec votre clé, je pourrais vous aider ». Et là, elle a comme de la pâte à modeler pour faire le calque de la clé. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne prennent pas une fausse clé?
Parce qu'une fausse clé peut être finalement découverte. Et ici, il devait pouvoir entrer sans que personne dans l'hôtel, y compris M. Hotman lui-même, s'aperçoit que quelqu'un a visité sa chambre.
Ouais.
Et en effet, ça a été exactement comme il fallait le faire.
Et il y a des scénarios qui paraissent, mais encore une fois, dignes de films de James Bond, comme vous dites. Alors, elles n'ont pas toutes le look de James Bond. Hein. Mais là, quand elles redescendent, elles, au petit déjeuner, il n'y a qu'une table avec une chaise qui est libre. Et tout le reste, la salle de petit déjeuner, ce sont des agents du Mossad qui sont là.
Ils sont là pour qu'ils
soient obligés d'aller s'asseoir avec elle. Et là, elle l'invite à dîner, et on ne vous dira pas la suite. Il faut lire le petit livre. S'il y a des histoires très, très romanesques, Waltraud et Wolfgang aussi. Donc là, ils font un couple pour détourner l'attention. Elle ne sait pas pourquoi elle est envoyée en Argentine, c'est cette histoire-là. Je mélange un peu les noms. Non, où elle part en Argentine, elle ne sait pas pourquoi elle part, c'est incroyable, c'est l'arrestation d'Eichmann. Et là, elle a joué un rôle important aussi.
Ah oui, oui certainement. Et puis vous avez cette-là, il y a elle qui arrive au Liban en tant que scénariste qui écrit un scénario sur une femme anglaise qui a visité le Liban. Elle a réussi d'une façon extraordinaire. Et après cette affaire, elle continue pendant 14 ans de faire de l'espionnage dans la plus grande capitale arabe. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas eu peur? Alors elle m'a dit, j'avais peur d'une seule chose, que je ne vais pas réussir dans ma mission. C'est cela qui lui faisait peur.
Et une d'entre elles dit à un moment aussi, je crois que vous lui posez la question, je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs, j'ai pas noté tous les noms, elle dit j'ai arrêté parce que je n'avais plus l'étincelle dans les yeux.
Parce qu'il y avait une femme qui est assez jeune toujours, et il me paraît qu'on la préparait pour être numéro un.
Ouais.
Parce qu'elle était formidable, elle avait réussi d'une façon extraordinaire toutes ses missions. Elle a reçu une poste très importante pour quelques années, et il paraissait qu'après cela, elle sera candidate au poste de leader de chef du Mossad. Et à un certain moment, elle a quitté tout, elle est rentrée chez elle pour élever ses trois
enfants.
Fils. Alors je lui dis, mais pourquoi tu as quitté? Tu aurais pu... Elle a dit, voilà, pour être une femme au Mossad, on doit avoir toutes ces qualités, mais aussi une petite étincelle dans les yeux, un tout petit goût de l'aventure. Et moi, un jour, je me suis levé, l'étincelle n'était plus là. Ouais. C'était la routine. Ouais. Alors, je ne voulais plus de routine.
Comment elles sont formées? Elles sont formées de la même manière que les hommes. Toutes au départ, parce que ça remonte à assez loin, mais aujourd'hui...
Aujourd'hui, elles passent un cours très, très dur, dans lequel il y a plusieurs candidats qui chutent, qui sont expulsés, mais exactement comme les hommes. Ils ont des tas de tests. Par exemple, elles sortent avec leur instructeur dans les rues de Tel Aviv, et lui, il regarde comme ça autour de lui, et dit, voilà, regardez-moi, vous voyez ce bâtiment-là? Vous avez 4 minutes et demie pour être au troisième étage, au balcon, avec un verre de lait à la main. Ça, c'est pour voir quelle présence d'esprit, improvisation,
comment
elle peut le faire.
Et on leur donne les mêmes tâches qu'aux hommes?
Oui,
tout
à fait les mêmes. Tout à fait les mêmes.
Et on voit à la fin, on voit que ces femmes prennent de plus en plus d'importance et qu'une femme donc a failli être à la tête du Mossad.
Oui.
Et ça paraissait impossible. Vous, quand vous étiez en poste, vous aviez imaginé que des femmes puissent occuper ce poste-là ?
Je ne savais pas que le Mossad était devenu l'institution la plus féministe d'Israël. Et le chef du Mossad qui me dit, ouais, mon plus grand rêve, c'est de voir un jour une femme à la tête du Mossad. Ouais. Il m'a dit, pourquoi à la CIA américaine, il peut y avoir une femme? Pourquoi à la MI6 anglaise, il y a une femme? Aussi en Israël,
il doit y avoir une femme.
Il doit y avoir une femme. Ouais. Nous avions une qui était numéro 2, plusieurs années, et personne n'a été étonné de la voir là.
Ouais. Celle qui vous a le plus impressionné, l'histoire qui est pour vous la plus forte, c'est laquelle?
C'est celle de Yael, de celle-là qui était à Beyrouth, qui a poursuivi les trois leaders des terroristes, et qui après qu'ils ont été tués par un commando israélien, suivant ces informations, et cette Yael a passé après 14 ans dans les villes arabes, conduisant des équipes, des missions. Et le chef du Mossad m'a dit, si elle recevait, si on lui donnait toutes les médailles qu'elle déserve à cause de ce qu'elle a fait, il n'y aurait pas de place sur sa poitrine.
Ouais. On imagine pas.
Elle est morte il y a 2 mois. Ouais. Et jusqu'à sa mort, son nom, son adresse était secret.
Personne n'a rien
national.
Su. C'est vrai qu'on en a très peu parlé de ces femmes. Comment ça a été accueilli, votre livre, par le Mossad, par le gouvernement israélien?
Très bien, très bien. Je pense que le Mossad, bien qu'ils ne m'ont pas dit, je pense que le Mossad avait intérêt, premièrement, d'attirer des femmes. Vous allez voir à la fin du livre, il y a même une affiche que le Mossad a présentée
pour recruter
des femmes.
Oui.
Et aussi, ça sert beaucoup à l'image du Mossad, qui est une organisation,
on voit l'affiche, qui est une organisation où on voit effectivement des soldats très, très, très virils, comme dans les séries qu'il y a eu à la télévision. Mais est-ce que ça ne les met pas en danger d'une certaine manière? Est-ce qu'on voit qu'elles ont des missions très difficiles en Iran, par exemple?
Mais elles les accomplissent d'une façon extraordinaire. Ouais. Écoutez, il y a eu le vol des archives nucléaires iraniennes, dans laquelle on participait au moins 100 membres du Mossad, hommes et femmes. Et quand le président de la République, Rivlin, a décerné le prix de la sécurité au Mossad pour cette opération, qui a reçu le prix de main du président? Une jeune femme.
Ouais.
Une jeune femme qui a participé. La photo, formidable, est du dos. Vous la voyez, c'est près du président.
Ben oui, parce qu'on ne peut pas la voir.
Parce qu'elle continue, oui.
Et vous savez, si les femmes aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui sont intéressées et qui vont...
Et maintenant, avec ce livre, vous savez, je reçois des coups de fil.
C'est
tout
vrai?
Le temps, oui. Tu as des connexions, tu vas... Oui, parce que quelque part, il y a ce petit goût de l'aventure.
Sauf que c'est très très dur, il faut vraiment lire le livre.
C'est très dur.
Et vous disiez ce qui est intéressant?
Pardon?
Non, vous alliez dire quelque chose, je vous ai interrompu.
Oui, parce qu'il y a aussi une chose qui les diffère des autres. La plupart de ces femmes qu'il y a dans le livre sont venues de tous les coins du monde.
Ouais.
Il y a des femmes qui sont de la France, d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis, de l'Argentine, de l'Uruguay, de l'Afrique du Sud, d'Australie, de partout. Et ce qui est commun entre elles, c'est un genre de ce que vous avez mentionné auparavant, le patriotisme.
L'amour d'Israël.
Très simple, en disant, nous pouvons aider à protéger ce petit État qui est le nôtre.
Ouais.
Et c'est pour cela qu'il y a une motivation extrêmement forte.
C'est ce qu'on ressent plus peut-être chez les femmes justement que chez les hommes, où ça paraît presque normal, et on n'imagine pas que des femmes puissent avoir ce sentiment-là, chevillé au corps, au point de mettre leur vie en danger, au point d'être enfermées et torturées.
Et
on voit qu'elles résistent et qu'elles sont courageuses. Bah écoutez, moi j'ai adoré ce livre, Les Amazones du Mossad, au cœur des services secrets israéliens. C'est aux éditions Saint-Simon, Michel Barthes. Zohar, merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez coécrit avec Nissim Michal. Passionnant, encore une fois. Il y a du romanesque, il y a de l'aventure, il y a de l'histoire d'Israël, parce qu'il y a aussi les relations avec la Palestine. Comment certaines ont fait passer parfois des Israéliens les ont aidés à traverser des frontières. C'est vraiment un livre passionnant. Si vous aimez les séries qui racontent ça, vous serez forcément séduit par ce livre. Merci beaucoup.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.